Campus Lille, 6h.
Bonjour.
Ça va ?
Réparer son Mac est un vrai défi dans la région. Il n'existe qu'un réparateur spécialisé Apple dans les Hauts-de-France. Et c'est Olivier Berthe, gérant de clinique informatique. Nous l'avons rencontré.
Là, c'est un peu décollé. Et avec le port HDMI, mais j'ai testé, on peut mettre le port HDMI sans problème.
Okay.
C'est parce qu'en fait, d'origine, j'ai trouvé qu'il y avait une faiblesse au niveau du port. Donc, j'ai préféré le renforcer.
Okay.
Donc, ça crée une petite surépaisseur. Ah. Et du coup, voilà.
Mais on voit bien qu'il consomme 1 ampère 64. Donc, il n'y a pas de souci, il charge.
C'était quoi le souci? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette machine?
Ça fait un court-circuit. Ouais. Et du coup, ça fait un retour sur la carte mère. Dû au port, du coup, qui était complètement abîmé et avec le court-circuit et avec le liquide. Et du coup, ça a complètement endommagé l'intérieur. Et le souci dans ces cas-là, c'est qu'on croit qu'il n'y a que le port à remplacer. Malheureusement.
Là, il n'y avait pas des composants en plus des...
C'est ça. Ouais, parce qu'en fait, après, ça malheureusement, il n'y a pas de fusible ou quoi que ce soit là-dessus. On aimerait bien. Mais c'est souvent effectivement des composants de puissance, des MOSFET ou des choses comme ça, et voilà, remplacer.
Donc là, vous l'avez ouvert, vous l'avez inspecté à l'œil nu, il y a des machines, qu'est-ce que vous utilisez?
J'ai un trinoculaire numérique, donc ça permet donc du coup d'avoir un affichage sur un écran externe.
Ouais.
Et surtout d'avoir une visibilité correcte, parce que c'est tout petit, ça reste petit, puis il faut suivre ligne par ligne de courant. Et après, tester au multimètre, voir si des circuits sont bien alimentés, si le chemin se fait bien. Et c'est comme ça qu'après, du coup, on arrive à réparer quand on a la meilleure des conditions possibles. Mais des fois, c'est pas évident parce qu'on n'a pas sur PC, on n'a pas forcément tous les schémas. Moi, c'est vrai que je suis spécialisé Apple, mais je fais aussi du PC. Mais c'est vrai que c'est un peu moins évident des fois. Moi, c'est Olivier, Olivier Berthe, gérant de clinique informatique. Ça fait 18 ans que je suis spécialisé Apple, j'étais formé par Apple France. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu l'évolution des produits Apple de plus en plus vers le tout soudé. Et j'empilais des machines en ne pouvant pas les réparer à l'époque parce que j'avais pas les connaissances. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est un gâchis monumental. Il y a forcément une solution pour des fois des petites bricoles en électronique, on sait que ça peut repartir. Et c'est là que je me suis intéressé, j'ai essayé de me former tout seul parce qu'il n'y avait pas d'école à l'époque. J'étais pas très bon en électronique à la base, il a fallu que je me forme en électronique spécifiquement sur Apple parce que c'est une conception de schéma bien particulière. C'est pas du tout conçu comme les PC. Et petit à petit, j'ai fait repartir des machines qui étaient là. Je me suis dit, ça m'a donné un peu de bon retour. Et puis finalement, j'ai pu sauver des choses complètement folles. J'ai une dame, une fois, elle m'a amené un ordi. Elle était dans son bain, elle suivait une série. L'ordi, il a glissé, il est tombé dans la baignoire complet, immergé totalement. Je l'ai sauvé. Il y a des trucs comme ça, c'est fou.
Il faut pas le faire, faut regarder des séries.
Il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. C'est comme le fameux, la fameuse histoire du riz, là, qui est totalement fausse. On dit de mettre le téléphone dans le riz quand il est tombé dans l'eau et tout ça, mais c'est totalement faux, ça fait rien du tout. Il n'y a pas de pouvoir déshumidifiant, déshumidificateur. Il vaut mieux prendre les dessiccateurs, là, ce qui est dans les chaussures, les boîtes à chaussures et tout ça, mettre tout ça dans un tupperware hermétique. Et des fois, effectivement, il y a de bien meilleurs résultats, encore que bon. Le meilleur réflexe, c'est de l'amener directement chez un réparateur qui, lui, va pouvoir désassembler tout et surtout déconnecter les alimentations. Parce que ce qui fait mal dans l'oxydation, c'est l'alimentation. Donc il ne faut surtout pas rebrancher un appareil qui a pris l'eau pour essayer de voir s'il fonctionne et vite débrancher la batterie. Donc c'est un peu ça le secret. Et plus on intervient vite, plus on a de bonnes chances de récupérer les choses, au moins les données. Voilà.
Alors c'est vrai que pour la petite histoire, moi j'ai mon ordinateur où il y a l'alimentation qui est dans le café, je pense. Du coup j'ai cherché des réparateurs, je suis passé par des boîtes plutôt classiques, on va dire, des gens qui ont pignon sur rue, qui m'ont dit que le port USB-C était mort et qu'il n'y avait pas grand chose à faire, qui me proposaient de racheter un ordinateur. On vous a trouvé, vous êtes nombreux dans la région des Hauts-de-France pour faire ce genre de réparation, de la micro-soudure,
Non, on n'est vraiment pas nombreux. Alors après, spécialisé Apple, c'est encore pire. On est 5 en France, donc j'ai même là récemment reçu un téléphone qui venait de La Réunion. Donc on m'envoie tout ça par colis. Mais non, dans les Hauts-de-France, moi j'ai des clients. J'ai un client qui a fait le déplacement de Lille. C'était un studio d'enregistrement, donc il avait besoin de ressouder un contrôleur sur un disque dur. Et pareil, il lui demandait 2000 euros, un truc complètement hallucinant. Mais il était prêt à le faire parce qu'il avait toutes ses données clients dedans. Et je lui ai sauvé la mise. Il était heureux comme tout parce que ça lui a dédommagé le trajet en plus, largement. Et non, on n'est pas nombreux. Et puis en plus de ça, moi de mon côté, je fais pas spécialement de publicité parce que je suis tout seul. Donc les temps de diagnostic sont très longs. Donc c'est chronophage comme activité. Donc je fais pas spécialement plus de pub que ça en plus. Donc non, on n'est pas nombreux. Je suis même tout seul. C'est, en fait, je répare toutes les erreurs en plus des confrères qui s'installent, qui n'ont pas des fois forcément toutes les connaissances ou autres. Ils abîment des composants ou des choses. Et quand les clients sont pas très contents, et ben, ils sont obligés de trouver une solution. Et dans ces cas-là, ils me trouvent. Et c'est vrai que je travaille pour quasiment tout le monde dans la région, même en sous-traitance.
Là, le tarif de base là, pour l'auscultation de l'ordinateur, c'était 50 euros.
Ouais,
c'est le devis. C'est combien de temps en termes de temps de travail?
C'est ça. Alors, ça va dépendre. Ça va dépendre des cas de figure. Alors, c'est vrai que moi, je me suis calé sur ça. Au départ, je faisais le diagnostic gratuit. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué. On m'a amené des tonnes de matériel. Et comme ça, effectivement, des fois, c'est très, très rapide. Des fois, c'est très long. Donc, je me suis dit, en me calant à 50 euros, ça me fait une moyenne. Et finalement, derrière, en plus, c'est un tarif qui est déductible de la réparation. Donc, moi, ça m'évite de faire des diagnostics pour rien. Juste, voilà. Et puis, derrière, le client, ça lui permet effectivement d'avoir un point final pour confirmer ou pas la non-réparabilité. Parce qu'aujourd'hui, quand on va dans un Apple Store, pour pas les citer, la plupart du temps, c'est des pousse-cartons maintenant. Ils veulent vendre du matériel. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit bien qu'ils font des diagnostics hein, quand la machine a pris du liquide. Mais on le voit très bien au microscope, en regardant les têtes de vis, que les machines n'ont même pas été ouvertes. Donc, ils chargent un maximum le devis avec une carte mère, un trackpad, un machin, un ventilo, une batterie et la totale. On arrive à un devis à 1000 euros. Et puis, en faisant la balance avec l'ancienneté, la vétusté de la machine et tout ça, ils nous disent qu'ils ont vite fait de nous convaincre à dire, bah non, vous changez de machine, ça vaut plus le coup, quoi. Donc c'est ça le souci aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup d'enseignes qui n'ont pas les compétences ou qui veulent pas les avoir, parce que moi, les Apple Store, je les ai démarchés. Je voulais travailler ensemble en bonne intelligence, parce que le constat, c'est quoi? C'est que si le client, il n'a pas forcément les moyens de racheter une machine, ils vont perdre un client. Donc, c'est complètement idiot. Au lieu de rester dans la marque, d'ici là, ils vont partir même sur un PC ou autre, et c'est quand même dommage. Donc, mais non, ils n'ont jamais voulu. Alors, c'est vrai que j'ai 2-3 techniciens sur place, des fois, qui m'envoient des clients quand même, parce qu'ils ont vu l'intérêt de la chose, et que c'est quand même bête de perdre des clients, et c'est quand même bête de laisser un client comme ça, alors que des fois, il y a possibilité de faire des réparations. Non, je ne sauve pas tout, mais maximum.
Olivier nous en dit plus sur les pannes les plus fréquentes qu'il doit réparer.
Les iPhones des dernières générations, elles sont ce qu'on appelle en carte mère sandwich. Donc c'est ultra compliqué et je m'amuse pas de proposer des réparations à purement parler sur un iPhone. L'iPhone, le cas de figure de l'iPhone, ça va être une personne qui a un téléphone qui du jour au lendemain ne s'allume plus et il veut absolument récupérer les données. Là, je vais pouvoir lui proposer une prestation de récupération de données. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est... Il faut que j'ai les fonctions primaires, parce qu'un smartphone aujourd'hui, pour pouvoir récupérer les données, c'est qu'il faut le connecter sur un ordinateur, et donc ça veut dire qu'il faut qu'il démarre, qu'on ait de l'affichage et du tactile, pour pouvoir taper son code de déverrouillage, parce que sans ça, on n'a pas accès sur l'ordinateur. Donc c'est la prestation que je propose, et dans ces cas-là, en général, ça se situe aux alentours de 150 euros. Donc pareil, même principe, diagnostic initial de 40 ou 50 euros suivant la gamme et le modèle d'iPhone. Et après, si réussite et succès, 150 euros donc au total. Mais ça, c'est vraiment pour la récupération de données, parce que derrière, je peux pas fiabiliser un appareil comme ça, c'est trop complexe les iPhones. Et je le faisais au départ et finalement, c'est un peu compliqué. Bien sûr, je le fais sur Mac à 100%. On va dire que sur un Mac... en moyenne, ça tourne au maximum. Ce que je m'autorise de proposer comme réparation, c'est le tiers du prix de la machine. Ça donne une bonne idée à peu près. Après, je considère que c'est économiquement inintéressant.
Il y a une prime de réparabilité cette année, ou l'année dernière, qui a été mise en place par le gouvernement. Vous y participez? Il y a cette aide de 50 euros quand on vient vous voir?
Non, je fais pas. Je fais pas ça parce que c'est trop d'administratif. Je me suis renseigné, c'est beaucoup trop d'administratif, avec des délais de règlement qui sont complètement hallucinants. Ça aide pas du tout parce que pour le commerçant final, en fin de compte, on s'aperçoit de quoi. Il y a une tricherie, même des confrères et autres, je le vois bien parce qu'on a des groupes et tout ça, on voit comment fonctionne chacun. Ce qui se passe, c'est qu'ils augmentent d'autant les réparations. Donc je préfère rester sur mes tarifs et puis proposer ma prestation de base normale et puis voilà. Après, il y a un autre point fort aussi que j'ai en dehors de la micro-soudure, c'est vrai que je propose aussi, Apple rend vite les Mac obsolètes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai trouvé une solution pour pouvoir installer des systèmes qui ne sont pas compatibles éventuellement sur les machines pour les faire durer. Par exemple, celui-là, l'iMac 27, là, c'est un 2010. Il est censé s'arrêter à Sierra. Donc 10.13, aujourd'hui, c'est complètement dans les choux. On peut même plus aller sur Internet de manière sécurisée, j'entends. Donc là, j'ai la possibilité, par exemple, d'installer Monterey ou un système récent dessus pour que la machine dure encore des années. Parce que on va changer de matériel, non pas parce qu'il ne fonctionne plus aujourd'hui, mais parce que le système n'est plus opérant et c'est en fonction de tout ce qui interagit autour. Quoi.
Donc là, ce n'est pas du hardware, ce n'est pas du matériel physique, non. C'est uniquement du software, c'est le système, quoi, l'OS.
C'est ça, avec quand même une partie des fois importante parce que il y a quand même des fois des machines de cette génération qui sont encore sur des disques durs mécaniques. Donc quand même, dans la prestation générale, j'inclus... il faut qu'il y ait, de toute façon, quoi qu'il arrive, un SSD. Parce qu'aujourd'hui, le disque dur électronique, c'est la base au niveau de la vitesse et tout, on est obligé. Donc il y a un changement de disque, plus après, derrière, la prestation, effectivement, de réinstallation avec un système récent, avec la réintégration des données, des réglages, voilà. Et comme ça permet de faire durer, et j'en ai fait durer un paquet comme ça, et c'est génial, parce qu'au lieu de racheter une machine, encore une fois... à 1500 ou même plus, sur un iMac 24 maintenant, on est ouais, sur des gros disques durs 1 Tera, on est ouais, facile à 1500, 1008 même. Là, on arrive à sortir avec une prestation aux alentours de 300-400 euros maximum, quoi, suivant la taille du disque dur.
Et puis, il y a un coût écologique.
C'est ça, ouais. c'est ça. Donc, non, c'est intéressant et je suis content d'avoir trouvé cette solution parce que c'est vrai que c'est quand même dommage.
Vous ne faites pas du reconditionné, vous n'allez pas voir sur le bon coin tous les Macs qui sont en panne dans le coin pour dire allez, je te le reprends à 150 euros et puis une petite culbute derrière.
Ça m'est arrivé, mais pas dans ce sens-là. Ça m'est arrivé pour des clients qui, par exemple, des personnes âgées qui avaient un petit budget ou des choses comme ça. Effectivement, j'arrive du coup à proposer, au lieu de leur dire d'acheter une machine neuve, au lieu de leur dire aussi de se débrouiller par elles-mêmes, d'aller acheter elles-mêmes et trouver elles-mêmes une machine sur le bon coin d'occasion ou autre parce qu'elles y connaissent rien, je préfère du coup, elles me disent leur budget, leur enveloppe globale, et à ce moment-là, j'essaie de trouver effectivement des machines et qui permettent, par rapport au prix d'achat et autres, et plus ma prestation derrière, de leur proposer une machine à un tarif intéressant. Dans ce contexte-là, ouais, je l'ai fait, ouais. Ça m'est arrivé de le faire quelques fois.
Clinique Informatique est une entreprise locale basée à Andainville, dans l'Oise. Mac en panne, un seul réparateur dans la région, un reportage de Juliette Carlier pour Radio Graphite.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
This is Cricket and Nico, Roots and Culture Show, Campus Lille, Radio Indigo, 106.6 FM. Yeah, the number one station in France. Adrien Natural tell you that. Bless up.
Un peu trop d'images. Plus puissant qu'une révolte et plus léger qu'un soupir. C'est dans son âme qu'il récolte le doux secret de ses souvenirs. Celui qui danse est nu quand les autres défilent et salue les drapeaux, que voulez-vous que je vous dise. Il était fou, il était beau, il était libre. Moi je l'ai reconnu là au coin de ma rue. Si un jour c'est toi qui le croises, regarde-le dans les yeux. Il a l'allure des sages, le regard des amoureux. Et s'il n'est là que de passage, n'hésite pas à le rendre heureux. Pour que voulez-vous que je vous dise? Il était fou, il était beau, il était libre. loin de se dire adieu. Rien ne sert de le retenir, c'est le voyage qui le rend heureux. Il s'est battu trop longtemps pour ce goût de liberté, pour pouvoir s'en aller et pour pouvoir revenir. Celui qui danse ses nuits quand les autres défilent et saluent les drapeaux, que voulez-vous que je vous dise?
So damn. Le Perchoir, c'est un tiers-lieu inclusif à Arras qui propose un moment de rencontre et de convivialité à toutes et tous. On découvre cet espace porté par l'association Down Up, association qui lutte pour l'autonomie de la personne en condition de handicap dans le milieu de vie le plus ordinaire possible. On découvre également les activités de ce tiers-lieu avec Clément, coordinateur et animateur de celui-ci.
Le Perchoir, c'est un tiers-lieu inclusif qui a ouvert maintenant il y a 2 mois sur Arras. Dans l'idée, c'est de proposer un espace de convivialité qui soit ouvert à la fois à notre public de Down Up, qui est principalement atteint de trisomie 21, tout en proposant aussi un espace d'accueil pour du public extérieur. L'idée, c'est de vraiment faire de la vraie inclusion et d'avoir un endroit où tous ces différentes personnes avec les différents publics puissent se retrouver pour partager des activités ensemble, donc des ateliers, des concerts, des expositions, voilà. Donc le but, c'est de vraiment créer un espace ouvert à tous, par tous et pour tous. Le projet, il émane de l'association Down Up, qui existe depuis maintenant une quarantaine d'années. Il y avait déjà un espace d'accueil avant ça, qui s'appelait le comptoir 21, mais qui était plutôt réservé aux adhérents de l'association. Depuis 2 ans maintenant, il y a eu une vraie volonté de s'ouvrir sur l'extérieur et de proposer cet espace aussi aux autres personnes du quartier, notamment d'Arras, etc. Donc là maintenant, ça va faire 3 mois que la nouvelle forme est opérationnelle. Et donc voilà, avec pour ambition qu'à partir de septembre, on soit parti pour de bon et puis qu'on ait trouvé notre fonctionnement, notre gestion, marquer un petit peu notre identité sur le quartier et par la suite un peu plus loin.
Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne concrètement au quotidien, le Perchoir ?
Le Perchoir, donc on est sur une forme bistrot, en tout cas dans la forme extérieure, parce qu'en fait le format bistrot, c'est quelque chose qui appelle à la convivialité aussi. On a tous eu nos grands-parents qui se retrouvaient sur un bout de comptoir pour échanger des moments de convivialité. Donc on a pris cette forme-là, on a fait le choix de proposer une carte sans alcool, parce qu'on trouvait ça plus en adéquation avec les valeurs qu'on souhaite défendre, montrer aussi qu'on peut s'amuser sans alcool. L'espace d'accueil ressemble vraiment à un bistrot et on propose à peu près les mêmes choses avec toujours cette volonté de mixité des publics. Le Perchoir est un projet Down Up, donc Down Up finance le projet, en tout cas sur la partie loyer, sur la partie salariat, etc. À terme, le but, c'est aussi de pouvoir devenir autonome et de pouvoir proposer une gestion qui soit indépendante financièrement. Mais le projet, pour l'instant, est encore au tout début, donc on a encore très peu de recul, finalement, sur comment ça va se projeter par la suite, en fait.
Et vous êtes combien de bénévoles au Perchoir, actuellement ?
Pour l'instant, on a une quinzaine de potentiels bénévoles, sachant que, en raccord avec les valeurs de l'association Down Up, l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer des découvertes professionnelles à nos adhérents, leur apprendre des codes au niveau du travail, au niveau de comment se comporter avec un public en face de soi. La partie bénévolat, notamment avec nos adhérents, est aussi vouée, pour le coup, à pouvoir proposer une ouverture professionnelle par la suite, en fait. Le but de Down Up, c'est vraiment, dans ses valeurs, depuis 40 ans, c'était de pouvoir accompagner des personnes porteuses de trisomie 21, à la fois dans des projets personnels, c'est-à-dire obtenir un appartement, vivre en autonomie, quasi-autonomie, de pouvoir avoir une vie en milieu ordinaire classique, et aussi le côté insertion professionnelle, justement, donc c'est-à-dire être en lien avec des entreprises du territoire, de pouvoir leur proposer des stages, des alternances, savoir dans quoi ils veulent aussi s'épanouir. Et donc avec le Perchoir, justement, on a cette première approche, en quelque sorte, qui va permettre à ceux qui sont intéressés par de l'accueil public, par la logistique, par de la restauration, de pouvoir découvrir ces mondes-là. Et puis que nous, on puisse aussi les accompagner justement dans cette découverte. Que ça ne se fasse pas directement dans un milieu ordinaire où une entreprise doit avant tout faire du chiffre pour payer les charges, les salaires, etc. Donc nous, on est vraiment dans cette approche un peu différente. On a une sorte de tremplin entre leur quotidien et puis un monde professionnel par la suite en entreprise.
Alors toi, du coup, ça fait combien de temps que tu es au Perchoir et c'est quoi un peu ton rôle ici ?
Donc moi, ça va faire 2 mois que je suis au perchoir. Je suis arrivé en tant que coordinateur, animateur de l'espace, parce que bon, c'est quand même une activité à part entière qui prend du temps et de l'énergie. Donc là, étant donné que les autres salariés de l'association étaient déjà bien occupés, bon, ils ont voulu ouvrir ce poste-là. Moi, dans l'idée, c'est de pouvoir à la fois gérer les espaces, parce qu'on a un espace accueil, mais on a aussi une partie team building. Donc dans l'idée, c'est de faire de l'accueil d'entreprise pour qu'ils puissent faire des réunions d'équipe en dehors de leur mur à eux, et de pouvoir faire des ateliers autour de l'inclusion. Dans l'idée, c'est aussi de pouvoir gérer les espaces, gérer les activités qu'on va proposer, enfin pouvoir coordonner un petit peu toutes les actions qu'on souhaite mettre en place sur cet endroit.
Niveau inclusion à un RAS, on en est où? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a déjà des choses mises en place?
Alors, il y a déjà des choses mises en place, évidemment. Il y a beaucoup d'associations qui militent pour ça. Comme je disais, Donne Up, ça fait 40 ans qu'ils militent pour cette vie le plus classique possible pour les adhérents porteurs de trisomie 21. Après, il y a encore, évidemment, comme dans beaucoup d'autres villes, des choses encore à faire. Mais il y a il y a une prise de conscience de la part de la commune. Là où on a de la chance, c'est qu'Arras est une ville quand même assez active, surtout sur ces questions d'inclusion, de mobilité, etc. Donc voilà, on est aussi acteur de ce changement et on donne des leviers, notamment à la mairie et à la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, pour que ça aille encore plus vite et apporter notre expertise sur comment les choses doivent se mettre en place pour l'avenir.
Qu'est-ce que, par exemple, il pourrait être fait pour avoir plus d'inclusion ici?
Le plus important, c'est continuer le travail de médiation auprès des professionnels et des personnes individuelles pour montrer que, en fait, le handicap est loin d'être une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Il y a une personne que je connais qui a embauché très récemment une personne qui est en situation de handicap qui m'a fait remarquer que ça avait été un changement complet dans son entreprise et que ça avait été du positif plus. Et en fait, je pense que sur Arras, en tout cas, avec ces problématiques qui lui appartiennent, il faut continuer ce travail de médiation qu'il doit aborder depuis pas mal d'années maintenant. Et bah, en fait, que les entreprises et des bailleurs ou quoi que ce soit n'aient pas peur de se dire en fait, ça va aller.
On est toujours en compagnie de Clément, coordinateur et animateur du tiers-lieu Le Perchoir à Arras. Il nous présente les activités de ce tiers-lieu inclusif qui propose un moment de rencontre et de convivialité à toutes et tous.
Actuellement, l'association de Neuf, elle compte une quarantaine d'adhérents. Tous ne côtoient pas le perchoir de manière régulière, mais par contre, à terme, c'est aussi les inciter à prendre part à la vie du lieu, que ce soit sur de la programmation, sur du service, sur l'animation, enfin voilà. Pour l'instant, ils commencent tout doucement à s'emparer du projet et le but, c'est qu'en septembre, on ait déjà un petit noyau dur de personnes qui pourront à leur tour aussi former les nouveaux adhérents qui souhaiteraient s'investir dans le projet.
Quelles actions ont été faites depuis le début?
Alors pour l'instant, voilà, on est encore au balbutiement, donc ça a besoin de prendre. On a eu le temps d'organiser 2-3 grands événements. Océane a organisé notamment les grandes lessives. On a organisé aussi la fête des voisins, avec vraiment à ce moment-là, cette volonté de montrer qu'on était ouvert à tout le monde sur le quartier. Et après, bon, c'est des personnes qui, pour l'instant, passent la tête parce qu'ils se demandent ce qui se passe ici et qu'ils prennent un petit peu la température et qu'ils se posent des questions. On a déjà pas mal de personnes qui ont osé franchir le pas et qui ont envie de devenir bénévole au perchoir. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et puis, bah voilà, là, encore une fois, dans l'idée, c'est de continuer jusque septembre et qu'à partir de septembre, on ait une programmation qui soit vraiment bien construite et qu'on puisse lâcher les chevaux un bon coup.
Vous avez des projets d'événements pour les prochains mois, à partir de septembre notamment?
Alors, dans l'idée, c'est de travailler avec des partenaires du territoire. Donc, par exemple, on a des projets d'exposition en partenariat avec l'Œil du Chat qui vont changer tous les mois. On fait la première en juin, là. En fait, on veut s'ancrer sur le territoire. Le but n'est pas d'aller faire le travail de ce qui se fait déjà, mais c'est travailler en partenariat avec ce qui existe déjà, justement, et d'être un support à action, en fait. Donc là, on a, par exemple, des associations de la Rajoie qui vont venir ici proposer des choses, et nous, on va accueillir et puis essayer de co-construire des programmes avec eux, en fait.
J'ai aussi vu que vous aviez un repère café pour réparer les objets. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus comment ça fonctionne?
Une personne peut arriver sur place avec un objet électronique ou non qui soit défectueux et de proposer à des personnes qui sont un petit peu bricoleurs, qui ont envie de mettre leurs mains dans les circuits électriques et électroniques, de pouvoir réparer l'objet. En fait, c'est une incitation à la non-surconsommation. Donc là, dans l'idée, c'est vraiment qu'on puisse montrer qu'on n'est pas obligé de jeter un appareil et qu'on peut le réparer. Donc, ça marche avec des bénévoles. Et alors, évidemment, on demande quand même à ce que la personne ait un minimum de bagages techniques pour pouvoir le faire. Donc, l'idée, c'est vraiment de montrer qu'on peut réparer un objet plutôt que d'en acheter un nouveau et entraîner à cette surconsommation.
Et aussi, vous avez un objetothèque. C'est quoi le but et comment ça fonctionne ?
L'objetothèque a été créée en lien avec Tipeee.me, qui est un tiers-lieu qui est sur l'île. Et donc, dans l'idée, c'est de pouvoir proposer un inventaire d'objets qu'on mettra à disposition contre une adhésion à l'association. D'objets qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Par exemple, je sais pas, une tondeuse, c'est quelque chose qu'on utilise une fois de temps en temps. Et plutôt que l'objet soit stocké et ne serve pas, qu'elle puisse servir à une personne qui en aurait besoin au moment T. Donc encore une fois, c'est une incitation à re-réfléchir à nos modes de consommation et de pouvoir montrer qu'une mise en commun, elle est possible et de ce fait, se partager des objets, se partager des savoirs avec le Repair Café par exemple, hein, c'est aussi ça, hein, c'est montrer comment on peut réparer un objet. Donc l'objetothèque, c'est vraiment ça, c'est de la mutualisation pour des objets qui ne servent pas au quotidien.
Pour l'instant, globalement, au Perchoir, vous êtes content de comment ça se passe ?
On sent un vrai intérêt de la part des personnes qui passent devant, avec tout cet effet de curiosité, évidemment, mais les personnes qui ont poussé la porte sont tous convaincus de ce qu'on souhaite porter comme valeur. Comme je le disais, on est encore au balbutiement, donc il y a encore beaucoup de choses à écrire. Mais en tout cas, pour l'instant, tous les feux sont verts des retours qu'on en a. Il n'y a plus qu'à convaincre les gens de l'extérieur de oser pousser la porte et puis venir partager des moments de joie avec nous.
Vous avez encore principalement des gens atteints de trisomie 21 qui viennent et pas trop des gens de l'extérieur encore ?
Nos adhérents commencent vraiment à prendre possession de l'endroit. Les gens de l'extérieur, on va dire qu'il y a encore cette curiosité qui n'est pas encore franchie totalement. La plupart des gens qui habitent dans le quartier ont vu qu'il se passait quelque chose, mais il y a encore ce dernier pas à faire pour qu'ils puissent franchir les portes et puis venir partager un café avec nous.
C'était un entretien avec Clément, coordinateur et animateur du tiers-lieu Le Perchoir à Arras. Il nous présentait les activités de ce tiers-lieu inclusif qui propose un moment de rencontre et de convivialité à toutes et tous. Vous pouvez retrouver toutes les informations du Perchoir sur leur page Facebook et aller découvrir ce lieu au 21 rue Paul Adam à Arras. Un reportage réalisé par Léo Lagnier, montage Laura Becker pour Radio PFM.
Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France. I am the king in my limousine, so watch me slide side to side. Trust me.
souvenir vivace, estampeur assurante. Comme un effet tandem, une vision schizophrène, sempiternelle sœur jumelle, un parfum lissé au coin des naseaux, une voix tamisée dont résonne l'écho. Cérébrale, intime, tiédeur, sucré, miel. Comme une âme dicéphale, je vis la vie bicéphale, double jeu duplicate à moi, je suis de comme tu es sur mes pas. En un mois, si à moi, il me tient par la main, jumelée, jumeau, doublé, duo. Tu me tiens chaud.
À Ravensbrück en décembre 1943. Noël était proche et l'on chantait en allemand ce que l'on chante partout en Europe. Vous connaissez la chanson en français. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter.
Lili Keller-Rosenberg, déportée à 11 ans, survivante des camps de Rosenbrück et de Bergen-Belsen, témoigne dans les collèges de la région des Hauts-de-France. Au-delà de sa propre histoire, Lili Keller-Rosenberg met en lumière les persécutions subies par les enfants juifs et ziganes du Nord et du Pas-de-Calais. Bruno Lobert l'a rencontré le 6 juin 2025 au collège Robert Le Frisson de Cassel.
Madame Keller-Rosenberg, bonjour, enchanté de vous connaître.
Moi de même, monsieur.
Vous avez malheureusement été arrêté à l'âge de 11 ans pour partir en déportation. Et là, aujourd'hui, à Cassel, vous nous avez donné un témoignage d'une tristesse à mourir, mais exceptionnelle.
Je tiens à témoigner sans fin, vous voyez. Nous ne sommes plus très nombreux, les déportés. Nous ne sommes plus qu'une poignée. Mais c'est tellement indispensable parce que les jeunes ont des cours d'histoire sur cette période. Ils en savent déjà beaucoup. Mais lorsqu'ils entendent un témoin, une personne qui a vécu cette période, eh bien, vraiment, ils sont heureux et ça leur apporte un plus, un grand plus.
À cette mauvaise époque, il y a un fichage des Juifs. On les empêche d'aller au cinéma, on les empêche d'aller à la piscine. On les affuble même d'une étoile de Judée.
C'est vrai, c'est vrai. Et c'est ce qui me fait la plus grande peine. Comment peut-on reproduire de telles horreurs? Comment? Vous voyez, je me demande ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Pourquoi le mal faut-il toujours qu'il revienne? Mais cependant, je ne perds pas courage. Vous voyez, on pourrait baisser les bras et être attristé au point de ne plus pouvoir en parler. C'est l'inverse qui se pose pour moi. Plus j'entends parler de mal, de honte, d'antisémitisme, plus j'ai envie de rencontrer encore un plus grand nombre d'élèves pour qu'ils sachent ce qui s'est réellement passé pendant cette période, pendant cette haine des Juifs. Hitler avait décidé de détruire les Juifs de toute l'Europe.
C'est ce qu'il appelait la solution finale, d'ailleurs.
La solution finale, qu'il s'appelait. Et nous y avons échappé de peu. Et lorsque les élèves me posent la question, comment j'explique que j'ai pu en réchapper.
C'est digne du miracle, on serait tenté de dire.
Exactement. Pourtant, je ne suis pas croyante, vous voyez. Mais je dis, c'est miraculeux d'être rentré, malgré tout, en mauvais état. On nous a soignés, mais nous sommes là. Et je dis aux élèves, voilà, c'est un défi pour les nazis. Ils voulaient m'abattre, ainsi que ma famille. Nous sommes là, voilà. Ça prouve qu'ils n'ont pas 100% réussi et que maintenant je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour expliquer, pour éviter que ça ne revienne, pour que les jeunes comprennent.
Le 27 octobre 1943, c'est une date toute particulière.
Toute particulière. Bien sûr, nous avons été arrêtés relativement tôt parce que beaucoup de déportés que je connais ont été déportés à partir de 1944. Nous, en 1943 déjà, c'était, figurez-vous, le jour anniversaire de maman. Quelle triste coïncidence.
C'est quelque chose qui touche en plein cœur.
C'est certain. D'ailleurs, les élèves, je ne veux jamais faire pleurer quand je témoigne. C'est un sujet triste, mais je veux surtout qu'ils retiennent. Je ne témoigne pas pour faire pleurer, mais ils sont sensibles. Et parfois, j'aperçois une larme au bord de leurs paupières lorsque je parle également d'un tout petit frère de 3 ans et demi, vous voyez, à l'époque. Comment a-t-il survécu? Avec l'amour, bien sûr, de maman, mais maman, dans la journée, travaillait, était à l'arbeit, et j'étais la seconde petite maman, je m'occupais de mes frères, et tout spécialement de André.
On s'aperçoit que dans ces camps de concentration, il y avait des façons de vivre difficiles, il y avait des virus, on mangeait pas, on avait froid.
Ces camps étaient ignobles. Tous les déportés l'ont dit au retour. Nous crevions de faim, je vous assure. Nous crevions de froid également, parce que nous n'avions aucun pull, rien pour nous protéger. Mais nous, les enfants, et je parle surtout pour moi, pour mes frères, nous avions si peur. Pendant 2 années, je vous assure, dans les camps, nous vivions comme des ombres, n'osant nous montrer, nous apercevions de la brutalité de ces SS qui nous entouraient, de leurs chiens menaçants. Ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés. C'est ce que, 80 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. Vous voyez, je n'ose m'en approcher. J'ai donc réellement été marqué par cela. Et comme nous avions si peur, nous restions enfermés la journée entière, comme des ombres. Nous n'osions nous montrer que le soir, au retour de maman.
On souffre soir et matin. On souffre, on meurt de faim. On pleure, car on nous a séparés des êtres bien-aimés que nous avons quittés.
Nous retrouvons Bruno Lobert et Lily Keller-Rosenberg, déportées à 11 ans, survivantes des camps de Rosenbruck et de Bergen-Belsen.
On vient de fêter les 80 ans de l'Holocauste, de la déportation. C'est pas compliqué de se rendre sur ces lieux de barbarie?
C'est un sujet toujours très pénible que certains n'ont jamais pu évoquer. Je connais des déportés, c'était au-dessus de leur force et disaient « on ne peut pas en parler ». Cependant, ceux qui le font, c'est indispensable, bien sûr. C'est dur, mais c'est tellement nécessaire que ça donne la force de tenir et d'en parler coûte que coûte et à l'infini.
Vous avez envie d'ouvrir une maison à Roubaix pour avoir une maison de la mémoire?
C'est pas une maison, monsieur, c'est ma maison.
C'est encore là, mieux.
C'est là où nous habitions à Roubaix avant la déportation. Et figurez-vous qu'il y a 2 ans, oui, à peu près 2 ans, nous avons appris que cette maison était à vendre. La nouvelle propriétaire voulait la vendre. Et donc, tout de suite, l'idée a germé dans mon esprit, dans celui de ma fille également, d'en faire une maison mémorielle. Vous savez, il y a des maisons en France, heureusement, et des associations où l'on parle de la déportation en général, surtout la déportation des adultes. Mais là, ce serait la maison de la déportation spécifique des enfants, les enfants juifs et tziganes.
Vous avez un certain âge, vous êtes d'ailleurs très bien. C'est ce qui vous motive, votre devoir de mémoire, de rester aussi belle et aussi jeune.
Là, vous êtes trop aimable aussi.
Non, je suis réaliste.
Vous savez, oui, je pense que c'est cette passion de témoignage, cette envie de transmission qui me tient, qui me fait tenir debout encore. Et comme je veux toujours être relativement coquette pour que les jeunes disent...
Avec votre rouge à lèvres, hein, vous avez insisté.
Ah, le rouge à lèvres est indispensable. Je témoigne toujours, vous savez, monsieur, je suis la seule déportée qui témoigne debout pendant 2 heures avec beaucoup de rouge à lèvres et bien mise de sa personne. C'est indispensable.
Je crois qu'on peut remercier aussi le corps enseignant, les proviseurs du collège de Warmouth et de Cassel pour l'organisation de ce moment de témoignage, de mémoire.
C'est certain, c'est certain. C'est grâce à ces principaux de collège, grâce ici à Warmouth et à Cassel aussi, c'est Cassel qui a organisé. Je trouve que c'est magnifique et je remercie toujours ces personnalités-là parce que c'est grâce à eux qu'il y a un grand nombre d'élèves à chaque fois qui viennent écouter le témoignage. Et aujourd'hui, où nous étions si nombreux et tous ces enfants, vous savez, les enseignants me disent parfois, on a du mal à tenir ces jeunes tranquilles, une demi-heure, trois quarts d'heure, ces jeunes, c'est plein de vie. Mais là, quand ils écoutent, pas un bronche, pas de bavardage, pas de bruit, les professeurs eux-mêmes en sont étonnés.
Il va falloir que vous veniez plus souvent dans les collèges.
Ben écoutez, jamais je ne refuse, sauf maladie, bien entendu. J'ai été très malade en 2024 pendant quelques temps, mais dès que ça allait un tout petit peu mieux, j'ai repris ma mission.
Merci de m'avoir accordé cet entretien, j'y tenais vraiment. Heureusement qu'il existe des gens comme vous pour nous parler du passé, pour aller vers un meilleur futur.
Merci à vous, monsieur. Grâce à vous, grâce à vos écrits, tout le monde saura que jamais il ne faut oublier et que nos jeunes sont là pour reprendre le flambeau. J'ai foi, j'ai confiance en eux et je veux qu'un jour la paix vienne dans le monde. Je dis bien, c'est pas pour tout de suite.
Ça va arriver.
Pas le chemin. On verra bien. Mais avec tous ces jeunes réunis de toute l'Europe, c'est quelque chose d'exceptionnel.
C'est bon signe.
C'est bon signe et ça arrivera.
Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée.
Merci à vous également. Au revoir, monsieur.
Au revoir, madame.
Déportée à 11 ans avec ses deux jeunes frères, Lily Keller Rosenberg est l'une des rares survivantes enfantines françaises à être revenue avec sa fratrie. Marquée par l'horreur des camps de Rosenbruck et de Birkenau-Belsen, elle consacre sa vie à raconter son histoire pour que l'oubli ne triomphe jamais. Cet entretien a été réalisé par Bruno Lobert. Montage, Koulibaly Daouda pour Radio UI Lanspiel.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Et c'est ceux qui viennent nous voir chaque soir. Et c'est ce, ah, quel rasoir, à cause de toi nous restons debout, à tomber sur nos genoux.
Bonjour, je m'appelle Edith, j'écoute Radio Campus sur le 106,6, campuslille.com et sur le DAB+.
je suis vache, je broute quasi toute la journée. Et les humains s'en foutent, enfoirés. Ils foncent sur la route qui borde la clôture et font meugler leur voiture. Dans leurs yeux, sans doute, je suis leur futur casse-croûte. Le pommier a plié sous le choc métallique, tandis que j'écrasais un moustique. Ils sont deux ratatinés, les sièges sont tartinés de viande de conducteur. Il y a une sale odeur de mort, pas très raffinée. Je suis triste, même si j'en rigole. Je suis triste, quand bien même j'en suis folle. À la vache, diront-ils, en voyant le César. Oui, je suis là, plaît-il, je me marre. Les pauvres, ils ont eu le choix de rouler comme des bœufs, d'arriver à 2 heures ou pas. Le plus malheureux, c'est que mon pommier n'est plus droit. Je suis triste, même si j'en rigole. Je suis triste, quand bien même j'en suis folle. Ces deux-là ont perdu au jeu de l'arrogance. On ne les verra plus en avance. Je ne peux me retenir d'esquisser un sourire. Eux qui ont fait rôtir mes frères. Au pire, on les enterre, ils s'en vont nourrir les vers. Au pire, on les enterre, ils s'en vont nourrir les vers. Au pire, on les enterre, ils s'en vont nourrir les vers.
Strong.
sky, I have to lie. Shadows move in pairs, ring out from a Bruce postcard. In the shooting yard, looking through the tears. Out of the black slate time, we move in line, but never reach an end. Falling along straight down as the ice comes down, rivers start to bend. And if you think that I've been losing,